Radio Prague, les informations.
La Chambre des députés demande la suppression de 11 partis politiques. Les écologistes accusent la direction du parc national du massif de Šumava d'utiliser des insecticides chimiques. Cérémonie ce jeudi du 66e anniversaire de l'insurrection de Prague devant la radio tchèque. La Chambre des députés a demandé au gouvernement de présenter à la Cour suprême administrative le projet de suppression de 11 partis et de suspension d'activité de 73 formations politiques. Selon les auteurs du projet, les partis et formations concernés n'ont pas présenté leur rapport financier annuel de 2010 ou les ont présentés sous une forme incomplète. Les partis représentés dans la Chambre ne figurent pas parmi les formations concernées par ce projet. L'association écologique Hnutí Duha a accusé le directeur du parc national du massif de Šumava, Jan Strasky, d'utiliser sans autorisation des insecticides chimiques dans les forêts du parc. Ces produits auraient été utilisés contre le scolyte, un insecte xylophage ravageur. L'association a déjà demandé à l'inspection de l'environnement tchèque d'ouvrir une enquête sur cette affaire. Le Premier ministre Petr Nečas et le président du Sénat Milan Štěch ont participé ce jeudi à la cérémonie qui s'est tenue comme de tradition à l'entrée du bâtiment de la radio tchèque en mémoire des 1700 personnes mortes pendant l'insurrection de Prague à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est en effet par la prise de l'immeuble de la radio et l'appel à la révolte du peuple tchécoslovaque qu'a commencé le 5 mai 1945 l'insurrection de Prague. 90 employés de la radio, policiers et autres résistants sont morts durant les combats pour la prise du bâtiment de la radio. Plusieurs manifestations se sont tenues à Prague ce jeudi aussi à l'occasion du 60e anniversaire du lancement des émissions en tchèque de Radio Free Europe, Radio Liberty. Les premiers ministres tchèques et slovaques, Petr Nečas et Iveta Radičová, ont notamment participé au Sénat à la conférence intitulée « Librement ». Dans son allocution, Petr Nečas a indiqué que Radio Europe Libre avait joué un rôle de bélier qui a détruit le mur de l'information du régime communiste. La Cour du district de Prague-Ouest a condamné Vladimir Stvora, ressortissant canadien d'origine tchèque, à 6 mois de détention avec sursis pour le soutien et la propagation des mouvements contre les droits de l'homme et les libertés civiques. Vladimir Stvora a placé sur son site internet la traduction tchèque d'un article mettant en cause la véracité de l'Holocauste. Météo. Après une journée de mercredi marquée par un temps variable, le soleil est de retour sur la majeure partie du territoire jeudi, jour de la fête des Claudiés. Quelques nuages restent toutefois notamment en Moravie dans le sud-est du pays. Les températures ont varié entre 9 et 14 degrés pour les maximales. Vendredi, le ciel entier qui sera pratiquement dégagé et les températures diurnes s'échelonneront de 14 à 18 degrés. C'était les informations de Radio Prague. Présenté par Václav Richter. Et je vous laisse en compagnie d'Anna Kubišta.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, au programme du jour, le 60e anniversaire de Radio Free Europe, Radio Europe Libre, célébré à Prague. Synonyme de liberté d'information pour les Tchécoslovaques sous le régime communiste, la légendaire station américaine est aujourd'hui installée à Prague, d'où elle émet toujours. La République tchèque n'est pas un pays accueillant pour les étrangers, c'est en tout cas ce qui ressort d'une étude britannique. Pour tenter de remédier à cela, une ONG de Pardubice organise une semaine multiculturelle. Et puis après ces deux sujets du jour, on passera ensuite à la rubrique Tourisme. Bonne écoute de ce programme. Il y a 60 ans de cela, le 1er mai 1951, a été diffusé pour la première fois depuis Munich les émissions en tchèque de Radio Free Europe, Radio Liberty. Pour marquer cet événement, plusieurs manifestations se sont tenues ces mercredis et jeudis à Prague, car même si la diffusion en tchèque a été interrompue en 2002, la légendaire station américaine derrière le rideau de fer, dont l'écoute était synonyme de liberté d'information pour les Tchécoslovaques sous le régime communiste, continue de siéger dans la capitale tchèque. Guillaume Narguet.
Thank you.
années 1950, lorsque la télévision n'en était encore qu'à ses balbutiements et que les Tchécoslovaques, comme les habitants des autres pays de l'Europe de l'Est sous l'emprise soviétique, n'avaient pas accès à une presse libre, les émissions de Radio Europe Libre constituaient la seule source d'informations non censurées. C'est ce qui explique en partie le succès de la radio américaine, dont les programmes étaient alors diffusés depuis Munich en Allemagne. Autre époque pour les médias, autre époque aussi forcément pour les journalistes d'alors, car pour eux, il s'agissait d'un tout autre travail que celui accompli par les journalistes 60 ans plus tard, comme le rappelle Yefim Finstein, un ancien célèbre rédacteur de Radio Europe Libre.
Nous n'avions pratiquement aucune concurrence à l'époque en Tchécoslovaquie. Il n'y avait alors peut-être que le samizdat local. Pour le reste, les canaux officiels s'efforçaient surtout de passer sous silence certaines informations plutôt que de chercher à les communiquer. Dans ce contexte, il était donc plutôt facile pour nous d'avoir l'air d'être intelligents, sages et de tout savoir. Nous avions un accès illimité aux sources d'informations, mais tout cela, c'est de l'histoire, car aujourd'hui, chaque journaliste tchèque dispose de la possibilité qui était alors la nôtre. Le monde a radicalement changé.
Une des autres raisons du succès immédiat de Radio Europe Libre auprès du public a été la présence au sein de la rédaction tchèque dès le début de quelques-uns des meilleurs journalistes, écrivains, hommes politiques et autres grandes figures et personnalités de l'exil tchécoslovaque. Ferdinand Perotka, présenté parfois comme le père du journalisme tchèque, a d'ailleurs été le directeur de cette rédaction tchèque lors des 10 premières années d'existence de celle-ci entre 1951 et 1961. Après août 1968 et l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie, de nombreux autres exilés tchécoslovaques ont également travaillé pour la section tchèque de Radio Europe Libre. Toujours ainsi, la qualité des émissions proposées est restée à la base de l'importante audience réalisée par la radio dont le fonctionnement était financé par le Congrès américain. Plus tard, après la révolution en 1989 et l'installation de la démocratie en République tchèque et en Slovaquie, les émissions en tchèque ont finalement été supprimées. Depuis 2002, Radio Europe Libre diffuse donc ses programmes dans des pays considérés comme plus prioritaires, là où l'accès à l'information autre qu'officielle servie par le régime en place reste aussi difficile qu'autrefois en Tchécoslovaquie. C'est pourquoi son ancien directeur, Pavel Pechacek, pense que Radio Europe Libre continuera de siéger encore longtemps à Prague.
Elle diffuse aujourd'hui ses programmes ailleurs, dans d'autres pays et régions du monde. Mais elle a gardé le même principe de base, informer, informer, informer. C'est ce qui fait le plus de Radio Free Europe, mais c'est aussi une nécessité pour elle, car dans les pays du monde qui ne sont pas encore libres et où il n'y a pas de démocratie, le plus important est que les gens puissent avoir accès aux vraies informations sur ce qui se passe réellement chez eux. Et quelquefois, il se passe vraiment des choses horribles. C'est pour cette raison que je pense que Radio Europe Libre va exister à Prague pendant encore de très longues années.
Et c'est d'ailleurs aussi un peu cela qu'a souligné le Premier ministre tchèque Petr Nečas lors de la conférence intitulée « Librement » qui s'est tenue ce jeudi au Sénat. Dans son allocution, le chef du gouvernement a indiqué que Radio Europe Libre avait joué un rôle de bélier qui avait détruit le mur de l'information du régime communiste.
La République tchèque se classe 19e sur 31 pays à l'index européen des politiques d'intégration. Une étude élaborée pour la troisième année consécutive par le British Council et le Migration Policy Group et dont les résultats viennent d'être présentés à Prague. Cet index, qui concerne notamment les 27 États membres de l'Union européenne, place la République tchèque loin des pays les plus accueillants pour les étrangers, tels que la Suède ou le Portugal. En termes d'accès des étrangers à la politique, la République tchèque a même terminé à l'avant-dernière place. Pour favoriser le contact entre les immigrés et la société majoritaire, le Centre de soutien à l'intégration des étrangers de Pardubice organise une semaine multiculturelle. Les détails avec Magda Hrozinkova.
Actuellement, la République tchèque compte près de 425 000 étrangers qui représentent 4% de la population comparé à 1% il y a 20 ans. Les dernières statistiques démontrent cependant que leur nombre a baissé par rapport à 2009. Les Ukrainiens, les Slovaques et les Vietnamiens constituent les communautés étrangères les plus nombreuses. À Pardubice, une ville industrielle de 90 000 habitants située en Bohême de l'Est, la communauté étrangère est assez forte à l'échelle nationale. La région compte 12 000 étrangers, pour la plupart des ouvriers et des étudiants, et la ville intramuros 7 000. Ivana Baklikova, du Centre de soutien à l'intégration des étrangers de Pardubice, un des 10 centres du genre existant dans le pays, nous explique quelles sont les principales difficultés qu'affrontent les nouveaux venus en République tchèque.
Leur plus grand souci, c'est qu'ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant de leurs obligations et de leurs droits, des conditions de travail par exemple, ou alors ils les comprennent mal. Nous les aidons à faire toutes les démarches administratives pour légaliser leur séjour ici, ce qui est souvent long et compliqué. Le problème est qu'ensuite, il leur reste très peu de temps libre pour s'intégrer socialement, pour avoir des activités, s'occuper d'eux-mêmes, de leur famille.
Pour y remédier, le centre a organisé en ce début mai une semaine multiculturelle. Plusieurs centaines d'étrangers d'Afghanistan, du Vietnam, d'Irak, de Mongolie, de Tchétchénie et de plusieurs pays africains ont ainsi participé à des concerts, spectacles de danse, conférences, expositions et événements sportifs. Un match de football a par exemple opposé une équipe multinationale aux agents de police municipale. La manifestation se termine ce vendredi par un marché sur la place centrale de Pardubice. Ivana Baklikova.
Nous préparons pour ces dernières journées des concerts de musiciens et danseurs mexicains, indonésiens et roms. Dans une vingtaine de stands, les étrangers vendront des produits de leur pays. Des produits artisanaux et culinaires. En plus, les visiteurs pourront assister à de nombreux ateliers. Par exemple, les filles d'Afrique du Sud qui font leurs études à Pardubice y présenteront une sorte de salon de coiffure. Notre collègue afghane montrera un atelier de dessin au henné.
Les organisateurs de la semaine multiculturelle espèrent que ce genre de manifestation pourra aider à faire évoluer les esprits. Selon un récent sondage effectué par l'agence STEM, près de 3 Tchèques sur 4 estiment que trop d'étrangers travaillent dans leur pays. Voilà, et puis après un tour par Pardubice, on revient à Prague pour cette deuxième partie d'émission. Et notre balade printanière fera plaisir notamment aux passionnés de la nature et de l'architecture jardinière. Jarka Gisubelova vous propose une visite du jardin botanique de Troja dans la banlieue nord-ouest de Prague. Le début du printemps, c'est le temps de l'explosion de couleurs des rhododendrons, des azalées et des cerisiers japonais dans le jardin japonais qui est sans doute la section la plus séduisante. Ce samedi 7 mai, le public pourra rendre visite au jardin japonais lors de la journée portes ouvertes. Les recettes d'un programme spécial seront reversées au profit du Japon, sinistré par le séisme. Un autre événement dans la section du jardin baptisé les racines des personnalités, deux chênes précieux ont été plantés par deux cinéastes de renom et non des moindres, le réalisateur Miloš Forman et le caméraman Miroslav Ondřiček.
Vous avez dit la République tchèque ? Voyagez donc.
Il existe deux jardins botaniques à Prague. L'un plus ancien s'intègre au complexe universitaire d'Albertov dans le deuxième arrondissement. L'autre plus récent, appartenant à la municipalité de Prague, complète l'attrait du quartier de Troja, l'un des plus chics de la capitale. Longeant la rivière Vltava, le quartier de Troja est réputé pour son château éponyme trahissant des influences françaises mais aussi italiennes qui lui ont été insufflées par l'architecte dijonnais Jean-Baptiste Mattei. C'est villa résidentielle, ses vignes et son jardin zoologique qui soufflera cette année ses 80 bougies. Le jardin botanique s'étend sur une colline au-dessus du château de Troja. Ses débuts remontent dans les années 1960, comme l'explique notre guide Zuzana Schwabenska.
Le jardin botanique a été fondé en 1969, mais ses expositions permanentes n'ont été rendues accessibles au public qu'en 1992. La surface originale approchait les 70 hectares. Aujourd'hui, le jardin s'étend sur une superficie d'un peu plus de 25 hectares. Aménagé en deux espaces distincts, l'aire sud et l'aire nord, il propose un parcours botanique tout à la fois informatif et poétique. En 1997, les expositions extérieures ont été complétées par un jardin japonais et par une collection de plantes réunies grâce à des expéditions en Méditerranée, d'où son nom Méditerranée. Notre promenade commence dans la partie centrale, plantée de centaines d'espèces de fleurs de couleur et d'époques de floraison différentes. Espèces annuelles ou vivaces, exotiques ou indigènes, elles déploient leurs fleurs depuis le printemps jusqu'à l'automne. En ce moment, c'est l'époque des tulipes notamment. On pense généralement que la tulipe est originaire de Hollande. Cependant, le berceau de la tulipe se situe en Turquie. Seulement au milieu du XVIe siècle, les tulipes ont été introduites en Europe. La tulipomanie a envahi rapidement la Hollande. À l'époque, les bulbes avaient une valeur énorme et étaient même échangés contre des immeubles.
Le jardin botanique de Troya peut se vanter d'une collection de 500 cultivars de pivoine, arbustif et médicinal la plus vaste du genre en République tchèque. Il possède aussi une collection unique de magnolia actuellement en fleurs. Au fil de notre visite, nous pouvons découvrir quelques petits lacs et terrains marécageux qui y sont le refuge des grenouilles et des poissons rouges. Notre guide s'arrête devant deux conifères majestueux qui apportent aussi leur touche d'originalité.
Voilà le séquoia géant qui atteint en Europe une hauteur de 25 mètres. Or, aux États-Unis, son pays d'origine, c'est jusqu'à 100 mètres. Le séquoia géant est l'arbre le plus volumineux de la planète, le spécimen le plus imposant est le général Sherman. Il se caractérise également par sa longévité. On indique que le plus haut et le plus ancien exemplaire connu a atteint une hauteur de 144 mètres. Une autre particularité du séquoia géant est que son bois résiste au feu.
Partout, le visiteur découvre l'inattendu. Le jardin botanique de Troya recèle de richesses insoupçonnées. Parmi les plantes en floraison printanière, on peut admirer la viorne pragoise, sélectionnée en 1926 par un jardinier du château de Troya, ou encore l'hémérocale de la famille des Liliacées, dont la particularité est en fait que les fleurs s'épanouissent à l'aube et se fanent au coucher du soleil. L'odeur de ces fleurs est très spécifique et leur forme intéressante. Pour cette raison, elles peuvent être utilisées dans la gastronomie pour décorer un dessert ou une salade, par exemple. Voilà déjà devant la porte qui nous conduit dans le jardin japonais. Selon la tradition, le jardin est conçu de manière à créer une ambiance à la fois pensive, méditative, reposante et inspiratrice. Créé en 1995 dans le cadre du jardin botanique de Troya, le jardin japonais a accueilli ses premiers visiteurs en 1997. La pierre, l'eau et les plantes vivaces sont les principaux éléments constitutifs du jardin. Divisé en deux parties de conception différente, la première représente un jardin de montagne. On y découvre un paysage miniaturisé et riche en symboles, avec un ruisseau serpentant entre les collines, symbole du chemin de la vie, ou dévalant en cascade jusqu'à un petit lac en forme de tortue, symbole de longévité, et peuplé de poissons rouges, symbolisant le bonheur familial et la santé. La deuxième partie concentre des collections d'arbustes et d'arbres provenant d'Asie de l'Est. La végétation est en grande majorité de type persistante et feuillage sombre. Azalées, rhododendrons, bambous, cerisiers et érables japonais, pruniers ornementaux. Il y a ensuite des hortensias, des cyprès, du houx, des ginkgos pour ne citer que ceux-ci. Une gloriette chinoise cachée au milieu des arbres près d'un petit lac est un lieu de repos et de cérémonie du thé. On s'y promène en suivant un chemin de dalles de pierre spéciale appelé Tobiishi, disposé irrégulièrement dans le jardin en sorte de rendre le cheminement le plus long possible, car les jardins japonais ne sont en général pas trop étendus, observe Susanna Schwabenska.
Notre jardin s'étend sur une surface de 0,7 hectares. Les Japonais croient que le chemin à travers le jardin symbolise le chemin de la vie. C'est pourquoi on utilise des tracés courbes plutôt que des lignes droites. Le but du chemin n'est pas atteint d'une manière directe. Ainsi, divers obstacles sous forme de plantes, dont la fougère, y sont posés. Simplicité, calme et rusticité, telles sont les caractéristiques des jardins japonais. Ces jardins sont les plus beaux au printemps et en automne, et non pas paradoxalement en été, comme c'est le cas en Europe. Au printemps, les azalées et les rhododendrons explosent de couleurs, ainsi que les cerisiers japonais, alors qu'en automne, c'est le chrysanthème, la fleur typique, sans oublier les feuilles colorées des érables japonais.
Nous arrivons près d'une plaque commémorative dévoilée en 1997 à l'occasion de l'inauguration du jardin japonais.
C'est le don que l'ambassade du Japon à Prague a remis au jardin avec 26 pruniers ornementaux qui sont plantés dans notre exposition. Il y a ensuite un groupe de pivoines arbustives de couleurs blanc, rouge et rose, mais aussi moins traditionnelles, jaune et violet. Elles dégagent un très agréable parfum et sont d'une longévité importante, entre 50 et 80 ans et même plus.
Depuis 2010, une nouvelle tradition s'est créée dans le jardin botanique de Troya, celle d'inviter des personnalités de la vie politique et publique à planter un arbre. Après Václav Havel ou l'ancien maire de Prague, Pavel Bem, la section « Les racines des personnalités » est enrichie depuis le week-end dernier par deux chênes précieux en provenance de la côte occidentale des États-Unis. L'un planté par le réalisateur Miloš Forman, l'autre par le caméraman Miroslav Ondříček. Notre visite continue vers la vigne de Sainte-Claire. Les dégustations ont lieu dans la maison du vigneron d'origine baroque. Depuis 2004, la vigne est classée site protégé, ainsi que le raconte Susanna Schwabenska.
La vigne de Sainte-Claire s'étend sur une surface de 3,5 hectares. Une nouvelle exposition inaugurée dans le jardin documente la production du vin à Troya. La petite chapelle qui se dresse en haut du coteau et qui a donné son nom à la vigne a été édifiée au XVIIe siècle par Václav Vojtěch de Sternberg pour sa femme, qui l'a dédiée à Sainte-Claire. Après les inondations qui ont frappé Prague en 1784, c'était la seule chapelle sur la rive droite de la Vltava où les messes étaient célébrées. Après une rénovation dans les années 1920, les cérémonies de mariage sont célébrées dans la chapelle et les messes y ont lieu le dimanche.
Pour terminer notre promenade, on peut s'arrêter encore dans la serre tropicale Fata Morgana. Ces trois sections nous plongent dans l'univers exotique des zones tropicales. Grâce aux collections de fleurs d'origine, la fiction que le nom de la serre, le mirage visuel, nous promet en est ainsi presque parfaite. On y découvre la végétation des zones arides comme le bûche australien. La partie centrale présente la végétation des forêts tropicales d'Amérique latine, d'Australie ou de Polynésie. Enfin, la section haute montagne offre de beaux spécimens de flores des Andes, des îles asiatiques et d'Afrique du Sud. Les collections sont complétées de chutes d'eau et de petits animaux des forêts vierges, très appréciées par les visiteurs, sont des papillons tropicaux.
Pour apprécier moi-même le jardin botanique de Troya, je vous conseille vivement d'y faire un tour et de siroter un petit verre de blanc dans les vignes de Sainte-Claire. Pour plus d'infos, le site du jardin botanique de Troya, c'est le www.botanetska.cz. Retrouvez tous ces sujets en podcast ou à écouter en streaming ou en version écrite au www.radio.cz. Merci, bon vent